moi j'ai trois frères et une cousine au castel oriental. J'ai réduit totalement ce qui
se passe. Moi j'ai été une diplomatie au Casse-Orage. Je pense qu'en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, a déclaré lundi dernier que la solution de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo passe par la réforme de son armée. Avant cette déclaration des diplomates belges, l'état-major général des FRDC avait déjà lancé la campagne de recrutement des jeunes dans l'armée. Il faut le rappeler cependant que le mois de juillet dernier, le Sénat avait en effet adopté la loi portant statut des militaires, une loi à mettre dans le compte de la réforme de l'armée congolaise. Quelle analyse faites-vous de cet appel du diplomate belge et que proposez-vous pour la mise en place d'une armée républicaine? C'est la question du débat, réagissez déjà. Notre standard est ouvert, vos critiques, questions et préoccupations, faites-les nous parvenir en nous appelant au 081 890 6315 et si possible, rejoignez-nous également à notre courriel pa@radiocapi.net et postez aussi vos préoccupations sur notre page Facebook. Kiki Poutou, Jean-Claude Fiala, Comtesse Matouba réalise cette émission, J.R. Nguebo vous la présente et Ben Kabambala supervise. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
Mohamed Boulay, vous êtes ministre honoraire de la Défense. Vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment réagissez-vous par rapport à l'appel de la Belgique à la réforme de l'armée congolaise?
L'appel de la Belgique, à mon sens, pour le moment, nous sommes dans le processus de la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo. Et ça, quand on dit qu'une loi organique numéro 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées a été promulguée par le chef de l'État. Dès lors que dans les dispositions de cette loi, il est disposé à l'article 135 dispose qu'à titre transitoire, cette réforme ne pourrait excéder des années pour que les forces armées puissent être adaptées aux dispositions de cette loi organique. Mais avant, donc, à la clôture de la session extraordinaire, avant de prendre les vacances, nous avons eu pour une seconde lecture la loi qui porte le statut des forces armées et l'article 73 a été réformé. Et donc, nous devons dire que pour le moment, les gouvernements doivent faire des efforts pour que ces réformes-là, cette réforme des forces armées, puissent être rendues effectives. D'un côté, il faut des moyens financiers pour la montée en puissance, pour la formation, pour le cadre social de ces militaires. On attendait aussi le paiement des salaires et des avantages, le casernement de ces troupes-là et s'adapter à la nouvelle situation. Je crois c'est que la communauté internationale devait faire, c'est de nous venir en aide, bien entendu, à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo, parce que la réforme, que ce soit pour la Belgique elle-même, la réforme de la Belgique, des forces armées belges, c'est en cours depuis plusieurs années, et ce pays qui dispose d'un espace, du moins de paix, et des moyens conséquents. Et donc, c'est une opération de longue haleine, ça prend le temps que ça prend, mais pour nous, le problème est qu'on puisse commencer avec les choses les plus simples. L'arsenal juridique étant là, et si le chef de l'État promis de ce statut, et donc le gouvernement doit se mettre à l'œuvre pour rendre applicable les dispositions de ces lois.
Oui, monsieur Mohamed, aujourd'hui, au regard du statut des militaires congolais, quels sont les éléments qui l'éloignent donc du standard universel, le fonctionnement universel des forces armées?
Vous savez qu'à un certain moment, les forces armées, au nom de l'unicité du statut des agents de carrière de service public de l'État, et les forces armées et la police nationale et les services de sécurité, nous émargions de cette disposition-là. Étant entendu que les forces armées, c'est un service spécial, mais c'est un service noble. Et que, par contre, c'est un service qui n'était pas fait syndiquer, qui n'a pas droit à faire des revendications, sauf dans le cadre du règlement intérieur. Cette loi, qui comporte 300 articles, fixe donc les conditions de recrutement, donc et tout le parcours qu'il doit faire quelqu'un lorsqu'il opte pour venir faire le service. Et là, on détermine les catégories des rangs des forces armées qui est constitué de recrues, des soldats de 2e et de 3e classe au matelot, c'est-à-dire les hommes des rangs. Et d'un côté, vous avez les officiers et les sous-officiers de 1ère classe. Et donc là, le parcours complet, avec les avantages, avec la formation continue jusqu'à la retraite et après la retraite, et donc c'est un statut qui sécurise totalement le service militaire. Et par contre, maintenant, lorsque cette loi est promulguée, toutes les dispositions de cette loi de 1900 qui porte qui avait caractère donc ce qui concernait les agents publics de service des publics de l'État, donc ne concernant plus cette loi 081-003 du 17 juillet 1981, portant statut du personnel déclaré du service public de l'État, et je vous l'ai dit, qui régissait le personnel militaire des forces armées aussi, en ce moment-là, toutes ces dispositions, une fois que cette loi est promulguée, deviendraient donc caduques. Et donc, les avantages, ça sécurise donc la carrière dans les forces armées, et de même que lorsqu'il faudra que sur la police aussi, parce qu'on veut une police réellement civile, aura aussi son statut séparé des forces armées.
Merci Mohamed Boulet, restez encore avec nous. Nous avons quelques auditeurs qui sont déjà en ligne, Louis-Serge Kakikwit et Val Manga à Kinshasa. Bonjour Louis-Serge. Voilà, nous avons Val Manga qui est à Kinshasa. Bonjour Val.
Bonjour Gérard, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quelle analyse faites-vous de cet appel du diplomate belge et que proposez-vous pour la mise en place d'une armée républicaine?
Merci beaucoup pour cette question très sensible de notre pays. D'entrée de jeu, je salue l'expert qui est très bien connu dans notre pays pour le domaine des armes. Et je commencerai d'abord par dire qu'une armée, c'est la souveraineté d'une nation. Donc, l'armée doit être une armée pratique et dissuasive et protectrice. Mais au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas les hommes qui manquent dans notre pays. Nous sommes 70 millions d'habitants. Et la jeunesse, vraiment, il y a un pourcentage énorme où on pourra résorber alors, disons, des gens qui peuvent défendre valablement notre pays. Au jour d'aujourd'hui, il faut le dire, que notre armée pose problème. Et raison pour laquelle nous avons 9 pays qui nous entourent. La souveraineté d'un État est assurée juste par ses propres fils. Ça ne sera pas la Belgique qui viendra défendre notre pays, mais c'est nous-mêmes. Alors, pour sortir de cette ornière, la première des choses, c'est de pouvoir réhabiliter cet appareil de souveraineté de notre État. Je demande donc, un, quand les parlementaires vont rentrer, il faudrait que ça soit d'abord cette question-là. Cette question doit être au premier plan pour sécuriser nos frontières. Nous devons, en fait, rendre étanches nos frontières, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nos frontières sont poreuses. Et n'importe qui peut entrer, il peut devenir congolais comme il veut, tout simplement parce que nos frontières, personne ne les garde. Et il faudrait maintenant, pour Belgique, le ministre, l'autorité belge, qui a le souci de Congolais, bien sûr, ce n'est pas pour rien. Nous voulons que les enseignants militaires soient installés dans notre sol, pour que nous puissions former. Vous savez, l'univers est dirigé par ceux qui ont fait l'université. Dans l'armée, on doit avoir des hommes intègres qui ont étudié le métier des armes. Il faut faire le rappel de troupes, je dis bien le rappel de troupes de toutes les intelligences de notre pays. Et vous savez que même aux États-Unis, que les grands savants, c'est dans l'armée. Et on arrive à inventer, moi je me rappelle encore de mes petits cours, que enfin, c'est lors de guerre qu'il est arrivé à inventer la pénicilline. Et au jour d'aujourd'hui, notre pays, bien sûr, nous sommes descendus très bas, mais c'était une grande et une force. Et je demande donc que cette académie, au lieu d'envoyer les gens au niveau de la Belgique, il faudrait que nous puissions avoir ces écoles. Nous avons bien sûr l'école militaire en Ganyema et aussi à Kananga, mais ça ne suffit pas. Il faut nécessairement vraiment des académies militaires pour former les militaires. Ensuite, ça, c'est au niveau supérieur des officiers.
Merci beaucoup. Oui, Val, vous parlez, donc vous avez dit, une armée d'abord, c'est quand même le symbole de la souveraineté d'une nation. Notre armée pose aujourd'hui problème, et entre autres problèmes, vous évoquez l'état dans lequel se trouvent les écoles de formation militaire. Vous avez cité l'école supérieure de Ngaliema, ainsi que l'école des cadets. Il y a tant d'autres centres de formation. On peut également élargir la liste. Du côté des Kibomango, il y a la base des Kamina, et tant d'autres. Voilà. Donc, le souci pour vous, si nous tenons à vos propos, c'est de réhabiliter tous ces centres de formation et donner accès aux jeunes, à une formation, donc donner une formation adéquate aux jeunes qui seront assoiffés de pouvoir servir donc de servir sur le drapeau. Merci Val d'avoir appelé. Louis Serge, vous êtes à Kikuit. Bonjour Louis Serge.
Bonjour. Je salue l'honorable Boulet. Les informations sont tout à fait pertinentes. L'homme politique belge n'a pas déconné, puisque la Belgique connaît bien la situation, lui-même connaît la situation, il sait l'endurance de la force publique. Je la connais, mais la force publique est 40-45. Il connaît, c'est la raison pour laquelle il s'étonne d'ailleurs en disant, il dit, mais finalement, comment est-ce que vous êtes ridiculisé comme ça, alors que c'était l'armée la plus crainte de toute l'Afrique. Je vous donne l'exemple. Quand vous avez à Kisangani le cas Tiopoli, ce nom-là, ce n'est pas le nom belge. C'était le nom d'un Congolais qui a fait ses preuves en Abyssinie à la mort de son chef qui était à ses côtés. Lui, il a pris le commandement, il a fait l'assaut d'assaut. Ça, Gambela, ça y est, c'est un Congolais pur sang. Bon, qu'est-ce que je propose? Je suis tout à fait d'accord avec lui pour la réforme de l'armée, d'une armée véritablement républicaine. Maintenant, il faut faire appel aux jeunes. Il faut rendre les services militaires obligatoires. Nous ne serons pas le seul pays à avoir rendu les services militaires obligatoires. Il y a beaucoup de pays qui ont fait preuve dans ce sens-là. Les jeunes qui vont être recrutés, tout jeune, du sexe féminin ou du sexe masculin, ils peuvent aller, qui terminent les humanités, ils peuvent faire deux, trois ans, puis ils sont remis à la vie civile, mais comme réservistes. Il faut qu'il y ait des lois pour les contrôler. Réservistes, pendant ce temps-là, à la vie civile, peuvent continuer les supérimaires, universitaires, même à l'enseignement, pour devenir prêtres, ils passent d'abord par les armées, par les drapeaux. C'est ce n'est après, lorsqu'il y a, par exemple, des hostilités telles que nous vivons, ces réservistes, on les fait revenir sous les drapeaux. Ça doit être même le service militaire obligatoire, un des critériums pour accéder à des fonctions publiques. Devenir député, il faut avoir fait de l'armée. Accéder à des postes administratifs le plus élevé après avoir fait l'armée. On a fait ce preuve, il est temps, mais alors il est temps qu'on reprenne, qu'on renouvelle les pays qu'on appelait à l'époque des Congolos, des Lokandou, des Irébou, qu'on refasse les sous. Et les jeunes qui vont être dans l'armée, ce qui remplisse les conditions, ils peuvent faire l'académie militaire. Hein, pour être des futurs cadres de l'armée de la force
publique. Voilà, le sergent.
La force publique qui est allée en Birmanie, l'hôpital belge. Toute là, l'endurance du Congolais à cette époque-là, et que nous descendions jusqu'à ce niveau, ça fait l'homme belge, l'homme politique belge,
Oui, sergent. Quelle est l'image que vous avez de notre armée aujourd'hui?
Ben, nous avons une armée, mais qui est mal encadrée. Et il y a plaisir aussi, il faut voir aussi ce méli-mélo, hein, les terroristes d'hier, tout ce que vous voulez, c'est qu'ils ont appris.
Voilà, on est obligé de rompre votre intervention. Lui Serge, le temps peut-être de prendre Didier qui est à Lubumbashi. Bonjour Didier.
Oui, bonjour Radio Fatih.
Comment réagissez-vous? Quelle analyse faites-vous de cet appel du diplomate belge? Et que proposez-vous pour la mise en place d'une armée républicaine?
Oui, je crois que la question de la réforme de l'armée congolaise proposée par le vice-premier ministre, M. Didier Reynders, c'est une question très pertinente qu'on doit prendre avec beaucoup de considérations. Qu'est-ce que moi j'entends par cette réforme? Je pense tout d'abord qu'il faut commencer par la réhabilitation des centres de formation qu'on a en place, comme celui de Kilomango, celui de Kamina, qui sont en état de délabrement très avancé. Après cette réhabilitation, je crois qu'il faut passer maintenant à l'identification au sein de l'armée congolaise, les éléments qui peuvent être nuisibles comme les êtres CNDP, les autres, les envoyer dans ces centres de formation, c'est-à-dire qui répondent aux standards du moment. Après cette formation, les éparpiller à travers toute l'étendue de la République, avec une bonne rémunération. À ce moment-là, je crois qu'on aura une bonne armée qui est seulement républicaine et persuasive.
Merci Didier. Nous prenons Franck qui est à Vienne, mais tout en rappelant à nos auditeurs qu'ils peuvent également participer à ce débat au 081 890 43 39.
Parole aux auditeurs.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi. Et si vous nous rejoignez, bienvenue. Et Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche. Bonjour, Franck.
Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour à tous les auditeurs.
Oui, quelle analyse faites-vous?
Je suis en train de vous suivre aujourd'hui le sujet du débat. Ça m'intéresse un peu. J'ai seulement deux points à soulever. D'abord, je crois que c'est bien que le juste premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Belge arrive à faire une telle recommandation. Mais personnellement, je trouve que pour un État qui se veut républicain, souverain, démocratique ou quoi, c'est pas à quelqu'un de l'extérieur qui doit venir rappeler aux dirigeants en place qu'un pays qui se respecte doit se doter d'une armée dissuasive et républicaine, quoi. Je trouve que de telles recommandations, faut déjà voir jusqu'où nous avons un État avec des responsables qui pensent à ce qu'ils pensent, sans peut-être penser à ce qu'ils devaient penser pour le bien des citoyens. Ça, c'est le premier point. De deux, je suis aussi l'actualité de ce qui se passe en Belgique. Moi, personnellement, ça me donne à penser de voir que ce monsieur Didier Reynders qui cherche encore à plaider pour la cause des Congolais, alors qu'au niveau du Parlement belge, nous savons qu'il y a un député belge qui tente de prendre la cause congolaise en main, mais quand nous voyons comment les politiciens belges les diabolisent ici, comment les médias belges les diabolisent ici, je me pose personnellement la question sur la sincérité d'abord du gouvernement belge et vraiment aussi de M. Didier Reynders. Alors, moi je me demande, je me pose cette question, si c'est vraiment le Belge qui pense au bien des Congolais, ou que ce sont des théâtres pour moi. Ce sont des théâtres, la Belgique, vu ce rapport avec la République démocratique du Congo, vu ce rapport historique, devait être le premier pays à prendre des sanctions vis-à-vis du Rwanda. Et quand il fait encore des suggestions de demander à ce qu'il y ait une force régionale neutre, sachant que c'est le Rwanda avec ses complices qui sont venus nous agresser, C'est comme si on est en train de chercher à mettre la RDC au même point d'égalité avec ses agresseurs.
Voilà.
Sans on retourne jusqu'à ce promesse-là où il n'y en a pas.
Voilà.
Donc on cherche un peu de nous faire comme ça. Moi, personnellement, je ne sais même pas qui l'a invité là-bas. Qui l'a invité?
Voilà, merci Franck. Nous retenons une chose, hein. Vous ne croyez pas à la sincérité, à la sincérité du gouvernement belge, hein, et surtout par rapport à cet appel de voir l'armée congolaise être reformée. Mais nous tenons également à vous signaler que déjà la République démocratique du Congo est très engagée dans ce processus de la réforme de l'armée. Et nous pouvons citer déjà deux instruments juridiques qui sont mis à la disposition déjà de nos forces armées de la République, notamment la loi portant statut de l'organisation des FRDC et aussi tout récemment la loi qui a été adoptée au niveau du Sénat, la loi portant statut des militaires. Donc je crois qu'à ce niveau, il y a quand même des avancées qui pourraient peut-être donner des solutions. Mais quant à savoir si ça sera une solution idéale pour résoudre le problème de l'Est, bon, le débat est lancé. Galvani, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour Galvani.
Bonjour, bonjour Géa.
Comment réagissez-vous?
Oh, moi, je crois que j'ai fallu d'abord l'idée de la réforme de l'armée, parce que vous allez constater avec moi que l'armée congolaise est composée en fait de 55 groupes armés. Si on les voit juste, ils étaient dans la rébellion, et pour partager avec eux, et amener une solution d'abord sur TFMR, pour qu'on s'y un peu d'abord une fée qui n'était même pas durable, on les a insérés dans l'armée. Or, c'est aujourd'hui, vous reconnaissez maintenant le fruit de tout ce qu'on avait, toutes les solutions qui étaient d'abord éphémères. Maintenant, il faut, la composition de cette armée doit se passer d'abord par les fils et les filles du pays. Comme ça a déjà commencé, il faut d'abord chercher à rajeunir l'armée congolaise, et aussi, deuxièmement, non seulement rajeunir l'armée congolaise, il faut chercher aussi à mettre les équipements. En fait, l'armée, ce n'est pas seulement les humains, c'est aussi les équipements. C'est pas seulement vous mettez les gens et ils commencent à souffrir comme les vieux qui sont, qui vont partir à la retraite, ce qui n'est pas bien. Vous savez, d'abord, il faut aussi une armée souveraine et non une armée au service d'un régime quelconque. Vous savez que non, du temps de Mobutu, lorsque Laurent Désiré Kabila est entré, il fallait la chasser les autres, et l'autre aussi, il a mis d'abord ses propres gens. Or, l'armée, ce n'est pas ça. Il faut une armée souveraine qui est au service du peuple congolais, et non au service de certains dirigeants. Face à la solution, d'abord, concernant la population de l'Est, la situation à l'est du pays, je pense que ceci. Le gouvernement doit apprendre aussi à écouter les couches sociales. Parce que nous, c'est comme si on constatait que non, il n'y a que ce que le gouvernement veut faire.
Oui, merci. Là, nous retenons deux choses. Vous demandez à ce qu'on puisse réellement rajeunir l'armée congolaise. Et aussi, vous demandez aux autorités d'encourager ces jeunes à avoir le souci de servir la nation sous le drapeau, tout en passant par une bonne rémunération. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait le dire, les jeunes n'ont plus de modèle, hein, même au niveau de l'armée. Merci, Galvani, de nous avoir apporté cette contribution. Confiance est à Kinshasa. On va prendre le tout dernier auditeur pour cette première série des auditeurs. Confiance, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, bonjour le présentateur, bonjour l'invité et bonjour à tous les occupistes de la RDC.
Comment réagissez-vous?
Ok, en fait ma réaction est d'être content. Moi je pense que c'est la solution. La réforme de l'armée est vraiment la solution qui nous coûterait moins cher. Non, la solution possible, c'est la réforme de l'armée. Il suffit seulement de voir ce que nous coûte la MONUSCO aujourd'hui. Et prendre cet argent-là et l'affecter à nos propres forces armées, nous aurons au moins des gens qui sont beaucoup plus motivés parce qu'ils défendent leur propre pays. Et je ne pense pas que d'autres solutions comme celle qu'on cherche à avoir une autre force en plus que la MONUSCO soit nécessaire. Mais la réforme, c'est une très bonne chose parce que avoir une force dissuasive, c'est aussi un attribut de souveraineté. Parce qu'il n'y a qu'une force armée qui peut, dans l'exécution de sa mission, protéger le territoire. Réformer l'armée va avoir la signification de rééduquer, de réarmer, de rééquiper, de réinvestissement dans la technique de guerre. Parce que, comme on l'a toujours dit, qui veut la paix prépare la guerre. Donc, réformer l'armée, moi je pense que c'est investir dans l'armée. Investir dans l'armée, c'est investir dans la sécurité durable. Hein, c'est un peu ça, par façon de voir les choses. Mais je pense que c'est une entreprise la plus facile à réaliser. Parce qu'un militaire bien formé, un militaire bien payé, un militaire est capable de mieux faire son travail et assurer la défense de son pays. Si d'autres pays voisins, qui il y a 20 ans, dépendaient encore de nos phages pour assurer leur sécurité, sont aujourd'hui forts et capables de prendre nos terres à l'est, à Bobandoudou, exploiter notre pétrole au Bas-Congo, et c'est parce qu'ils savent que nous n'allons pas bouger même un petit doigt. Donc, prenons seulement l'exemple que nous coûte la main. Je pense que c'est d'une manière brève, je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps et je sais que c'est la solution qui nous coûterait le moins cher possible.
Merci beaucoup, Conscience, d'avoir appelé les Kinshasa.
Je vous en prie.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des réseaux et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte, le coquet de l'après-midi sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Nous avons en ligne Mohamed Boulet, ministre honoraire de Défense. Honorable, vous êtes avec nous. Vous avez suivi les interventions des uns et des autres. Comment réagissez-vous?
Merci beaucoup. Successivement, j'ai suivi les réactions des intervenants de Lubumbashi, de Kinshasa, d'Autriche, de Bujumbura. Mais je voudrais leur rassurer d'une chose. En ce qui concerne les réformes des forces armées, ces réformes touchent en priorité les ressources humaines. Et cette loi, c'est l'instrument nécessaire. Je leur prierai également de prendre connaissance et de s'en procurer au niveau du journal officiel, cette loi organique numéro 11-012, et tout s'en rendre compte, effectivement, que nous sommes donc dans le processus de la réforme. Et il fallait bien une instruction, parce que cette loi, mission de l'organisation des forces armées, si je peux me permettre de procéder à les forces armées, sont au service de la nation. Ils ont raison de s'en préoccuper. Elles ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières. Ils ont raison d'évoquer ce problème. C'est pourquoi, à l'intérêt, dans le cadre de cette réforme, et on catégorise 6 grandes unités pour remplir ces missions. On a les zones de défense, on a les corps de santé militaire, on a les corps logistiques, le commandement général des écoles militaires pour justement assurer une bonne formation à ces éléments. On a le service de communication et d'information des forces armées, finalement, le service d'éducation civique et patriotique et d'action sociale, pour accompagner également les militaires dans le social qui les touche. Et à l'intérieur de ça, vous avez les 4 titres qui reprennent de manière détaillée, et ce qui n'est pas détaillé, qui touche le social des militaires, vous le trouvez dans ces 300 articles de cette loi qui concerne le statut des forces armées. La réforme, c'est une mission de très longue haleine. Ça demande beaucoup de moyens. Je ne cesserai de le dire, partout à travers le monde, que ce soit dans les pays les plus modernisés, le budget ordinaire du pays, on ne peut pas donc totalement l'affecter à la réforme. Parce que une tranche qui revient normalement pour les forces armées, la défense, c'est de 5%. 5%, je l'ai toujours dit. Et pour bien partir, pour s'assurer que ces réformes aient lieu, il faut recourir aux moyens extra-budgétaires. Pourquoi ces moyens extra-budgétaires? Parce que l'acquisition des moyens, en ce qui concerne les spécificités de chaque force, la force terrestre qui est une force mère, les moyens de combat, les chars de combat, les munitions, la force aérienne qui doit nous assurer la couverture aérienne, les avions, l'entraînement même de ces pilotes comme on l'a connu autrefois, et bien entendu, les infrastructures qui doivent l'accompagner. Il faut des quartiers généraux, il faut les construire, il faut des camps pour héberger les métiers qui doivent être hébergés,
oui,
pour créer des conditions sociales acceptables, les centimes pour la troupe,
oui,
les messes pour les officiers et les messes pour
tout ça. Tout ça, ça demande beaucoup de monde. Et bien entendu,
honorable.
Dans la foulée,
oui, honorable.
La formation continue.
Tout à fait. Honorable, on se rend compte, comme vous l'avez reconnu, que c'est un travail de longue haleine, mais la solution aujourd'hui, c'est la paix à l'Est. De ce qu'il y aura ce travail, ce processus qui va perdurer, la population a soif quand même de l'établissement de la paix à l'Est.
Tout à fait. La population et nous-mêmes au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes préoccupés par cette situation. C'est-à-dire au moment où le gouvernement devait s'occuper à concrétiser ses réformes, c'est même le gouvernement central, parce que c'est le gouvernement qui gère au quotidien l'état du territoire. Il doit faire face pour que la paix revienne dans cette partie du territoire. Pour que s'il y a la paix un peu partout, et donc la population sera à mesure de se prendre en charge, d'exercer ses occupations au quotidien pour faire ce qu'elle doit faire. Et cela, et c'est avec les mêmes moyens budgétaires que le gouvernement doit faire face. Et donc, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons produit le texte qu'il faut, l'arsenal juridique. Et maintenant, le gouvernement est entre les marteaux et la pluie. Parce que, d'un côté, il faut vite rétablir l'état de droit à l'est du pays. Ou à l'intérieur même de nos effectifs qui étaient autrefois intégrés. Il y a une bonne partie qui n'a pas été intégrée. On est passé de l'intégration au mixage. Je ne suis pas d'avis que le mixage allait produire quelque chose de bien. Parce que lorsqu'on fait le mixage, on obtient, permettez-moi, mixture. Il y a d'autres groupes armés qui sont nés. Et là-dedans aussi, le gouvernement doit y faire face.
Oui, Mohamed.
Parce que les gens qui prennent les armes.
Oui, Mohamed,
qui désertent.
Oui, si vous le permettez.
Les forces armées. Avec le matériel et les moyens militaires que l'État, le gouvernement congolais a mis à disposition. Ça pose problème. Et donc là, le gouvernement doit adopter des stratégies pour y mettre fin, pour établir l'ordre, pour sévir aussi, parce que ceux qui ont déserté, le code pénal est assez clair à cela.
Oui,
et donc, et la justice civile doit faire le fait,
oui,
le travail en toute indépendance, et le gouvernement de mettre les moyens pour permettre à cette justice d'agir. Parce
voilà.
Que cela,
oui, bon, mais on peut
à l'intérieur de notre pays.
Oui, s'il vous plaît,
problèmes.
Oui, s'il vous plaît, Mohamed. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, Mohamed, on va peut-être accorder la parole à la deuxième série des auditeurs. Hein. Il y a Nicolas qui est à Kinshasa et Clément qui est à Boujimaï, mais tout en vous rappelant aussi effectivement, vos propos vont dans le sens même de ce que Didier Renef a dit, je cite, « Je crois qu'il faut maintenant garantir l'intégrité du territoire du Congo et rétablir la paix, la stabilité et un état de droit. Ça passe par une réforme de l'armée. » Je crois qu'on doit reconnaître que l'intégration par le passé des rebelles et des militaires à l'intérieur des forces armées n'a peut-être pas été la bonne solution. Fin de citation. Nicolas, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Voilà, Nicolas, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, prenons plutôt Clément, qui est à Boujimaï. Bonjour Clément.
Oui, bonjour J. Bonjour à l'invité, bonjour à la radio Kassi.
Oui, Clément, comment réagissez-vous?
Oui. Personnellement, je ne trouve pas la pertinence dans ce que le ministre belge a donné comme déclaration, parce que le chef de l'État en avait déjà fait en avance. Et le notre Parlement a déjà siégé là-dessus, et le Sénat est en train de traiter ce dossier, donc cette loi de la réforme de l'armée. Et donc d'ici là, la loi sera appliquée. Donc le ministre belge n'a fait que copier ce que le gouvernement congolais est en train d'entreprendre et de faire. Mais ce que je voudrais faire appel au gouvernement congolais est que c'est par passant de l'exemple côté la terre. Vous avez votre chien de chasse. Ce chien vous permet à attraper les gibiers régulièrement que vous allez à la chasse. Et que vous ne vous souvenez pas de pêcher après avoir eu le gibier. Et que pensez-vous qu'à la chasse prochaine, ce chien-là peut avoir le dévouement? Ce chien qui agit par instinct, pas par l'intelligence, qui agit par instinct, peut-il facilement réagir correctement comme d'habitude? Parce qu'à la chasse antérieure, il n'a pas été servi en viande comme il s'attendait. Voilà un peu le problème avec notre armée congolaise. Voilà un peu le petit exemple que le gouvernement peut suivre et voir la faisabilité des choses. Notre armée est forte, mais notre armée est mal équipée sur le plan logistique, sur le plan social. Voilà le plus grand problème. La réforme de l'armée ne veut pas dire tout simplement recruter les nouvelles unités. Mais nous devons d'abord voir l'ancienne unité, penser à cette ancienne unité, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne doit pas être fait. Alors à ce moment-là, on pensera à recruter de nouvelles unités. Notre armée est prise dans des conditions inhumaines. Donc nous infligeons à notre armée les conditions très difficiles de vie. Donc ça diminue même la conscience professionnelle de pouvoir travailler. Voilà un peu ma petite intervention que je voulais apporter et que le gouvernement a tiré le compte.
Voilà, merci Clément. Nous retenons que vous êtes plutôt favorable au renforcement des capacités de nos forces armées que plutôt travailler sur le recrutement ou rajeunir. De là, vous venez peut-être d'intervenir en contrario avec Galvani qui a appelé de Mbujima également. Nicolas est à Kinshasa. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour Radio Capi.
Comment réagissez-vous?
Bon, moi je commencerai par dire que il faut d'abord savoir qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Et si notre armée ne va que d'échec en échec, c'est par rapport d'abord aux chefs qui sont devant ces troupes. Il faut certes faire la réforme de l'armée, il faut certes équiper notre armée, il faut certes renforcer les capacités de notre armée, certes des personnes qui sont aux commandes, mais aussi il faut voir quels hommes d'État, surtout les hommes d'État, les personnes engagées à défendre l'intérêt du pays. Il ne faut pas prendre des personnes qui peuvent facilement manifester une couleur aujourd'hui et changer d'autres couleurs demain. C'est ça le grand problème. Et ensuite, notre armée est improductive. Nous ne savons même pas dans nos camps, les militaires dans nos camps ne savent même pas se prendre en charge eux-mêmes. Ils ne savent même pas faire l'agriculture, faire ceci, produire quelque chose pour pouvoir se prendre en charge. C'est impossible. Et troisièmement, c'est par rapport à la répartition des militaires sur l'étendue, sur toute l'étendue de la République. Ah, je ne sais pas, est-ce que le même nombre de militaires qu'on trouve à Kinshasa ou dans l'État est la même et est proportionnel aux militaires qui se trouvent dans les autres provinces de la République, dans les frontières surtout? Ce sont les frontières qui sont les parties les plus vulnérables où l'ennemi peut entrer et sortir et attaquer par surprise. Mais nous constatons que la grande partie, la majorité de nos militaires sont concentrés à Kinshasa et à Lubumbashi par exemple, alors que nos frontières devaient être mieux protégées. Mais je ne sais pas, s'il faut reformer l'armée, il faut aussi voir à cette question-là du dispatching, de la repartition de nos forces armées. C'est comme ça que je voulais réagir par rapport à cette question.
Voilà, donc vous revenez aussi sur l'aspect nombre pléthorique hein, de nos éléments uniformes au niveau de l'armée, et ils sont vraiment un nombre exagéré ici à Kinshasa, et vous souhaiterez, vous personnellement, que le déploiement soit fait plutôt en grand nombre dans le parti où la sécurité règne. Donc dans le cadre de cette réforme, il faudrait qu'on tienne compte de cet aspect. Merci Nicolas d'avoir appelé de Kinshasa. Samuel, vous êtes aussi à Kinshasa. Bonjour Samuel. Oui.
Bonjour JR, bonjour à tout le monde.
Et comment réagissez-vous Samuel?
Oui, en ce qui concerne le ministre belge, ce qui avait réagi par rapport à notre armée, à nous, moi je suppose que il nous a dit de réformer l'armée seulement parce qu'il y a guerre. On nous attaque à l'est du pays. Et maintenant, l'armée est sous l'embargo. Donc, lui et le gouvernement belge ne savent pas que l'armée congolaise est sous l'embargo. Il est aussi sur le pays d'un colonisateur de la RDC. Et il ne peuvent pas aussi nous aider pour que les pays sortent de l'embargo. Et que l'armée puisse sortir de l'embargo. Mais moi, je suppose que tout ce qu'ils sont en train de faire là,
Ils ont plutôt l'ambition de nous aider, bien sûr, mais il faut qu'ils nous facilitent sur la tâche.
Mais l'armée est sous l'embargo. Vraiment, il faut que la Belgique nous aide, que l'armée soit esprit de cet embargo. Merci.
Voilà, merci Samuel, mais il faudrait de noter que notre armée n'est pas sous embargo. Nous avions tous l'information que plutôt les groupes armés, les groupes actifs à l'est du pays, qui sont mis sous embargo. Voilà, donc il faut retenir cette précision. Mais il faut également retenir, parce que vous avez souhaité que la Belgique puisse travailler aux côtés des FRDC. Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, l'a indiqué que la Belgique est prête prête à apporter son appui au FRDC pour matérialiser cette proposition, cette réforme qui a déjà été amorcée bien avant par le gouvernement congolais. Nous revenons à vous, Mohamed Boulay, ministre honoraire de la Défense et actuellement honorable. Vous êtes avec nous, vous avez suivi. Et revenons un peu par rapport à l'intervention des Franck de Vienne qui ne croit pas à la sincérité de la Belgique au regard de la qualité sur place à Bruxelles.
Merci beaucoup. J'apprécie les interventions des VR en ce qui concerne de reconnaître que notre pays est à vue d'œuvre, donc étant entendu que cette loi a été promulguée par le chef de l'État, il reste que sa mise en exécution, qui demande bien sûr beaucoup de moyens. Et je suis aussi d'avis que la Belgique pouvait plutôt nous dire que, comme le plan diplomatique dit, que nous accompagnons la communauté internationale et dit, que nous accompagnons la République démocratique du Congo dans ses efforts de restaurer la paix et l'intégrité territoriale, et bien entendu dans les réformes. Parce que tous ceux qui nous accompagnent, y compris la Belgique, n'ignorent pas les coûts de la réforme, parce qu'elle-même, elle est en processus depuis plusieurs années pour la réforme. Je ne sais pas si je l'ai dit. Encore notre frère Nicolas qui a dit, comme toujours, que l'armée est improductive. Écoutez, l'armée dispose de tous les services possibles, les services de l'agriculture et l'élevage, les services, les corps de santé, les corps de génie qui peuvent faire de beaucoup de choses. Qui se rappelle autrefois, l'ingénieur militaire Moleka, cette érosion de Kitokimo aussi. Tout cela demande aussi des moyens. Un engin vraiment pour l'agriculture, le meilleur engin, coûte plus de 50 000 dollars. Est-ce que, pour le moment, a-t-on mis les moyens nécessaires? Donc, la mise à disposition des moyens nécessaires pour permettre aux forces armées de peut-être de réaliser des projets pour son alimentation, etc., etc. C'est une question que je me pose. Et donc, il suffit seulement de rentrer à l'intérieur du budget pour se rendre compte de la quantité qui revient aux forces armées. Nous savons également que l'intégration s'était arrêtée à mi-chemin. Il y a des stratégies pour poursuivre ça. Et au niveau du ministère de la Défense et au niveau du haut commandement militaire, des études existent. Mais c'est la mise à disposition des moyens pour poursuivre. Parce que l'intégration, la réforme, nécessairement, pas en le disant comme nous le disons, il faut le concrétiser. En le concrétisant, il faut les moyens. Les moyens à mettre à disposition année par année. Pour que, à l'intérêt de cette année, qu'on puisse réaliser les projets nécessaires allant de recensement, allant de la préparation des dossiers de ce qu'il faut mettre à la retraite, il faut réformer. C'est ça aussi le passé de la réforme.
Oui, s'il vous plaît.
C'est le statut qui a tout prévu. Toutes les conditions sociales qui concernent les militaires, lorsque cette loi sera promulguée par les chefs de l'État, je suis ici, je n'ai pas l'information.
Donc, c'est pas encore promulgué.
Au moment où je vous parle, lorsque cette loi sera promulguée, tous ceux qui pourront se procurer de cela se rendront compte que cette fois-ci, on a tenu compte, on a sécurisé les militaires dans sa carrière, depuis le recrutement jusqu'à sa sortie, y compris après la carrière jusqu'à sa mort. Et donc, là-dedans, si on applique correctement, s'il faut vraiment un vrai leadership pour que ces mesures-là, que ce soit au niveau des forces armées, des unités à mettre en place, des commandants de ces grandes unités à nommer par ordonnance du président de la République,
nous devons, certainement, nous devons nous attendre. Nous devons avoir l'espoir que
il y aura des changements.
En application cela avec les moyens qu'il faut.
Il y aura des changements.
Et oui, moi-même. Pour nous permettre de contrôler, nous pourrons dire qu'on verra démarrer effectivement la réforme dans le présent.
Et Mohamed, l'intégration par le passé, ça c'est selon Didier Reinders, des rebelles et des militaires à l'intérieur des forces armées n'a peut-être pas été la bonne solution. Que pensez-vous?
Non. Il ne peut pas dire ça parce que la première brigade que nous avons, qui a été formée pendant la transition, c'était avec l'assistance belge. Il fallait que cette intégration se poursuive de cette manière-là. À un certain moment, on est resté bloqué parce que les moyens mis à disposition, la communauté internationale n'a pas dégagé notre moyen, y compris la Belgique, dans une certaine mesure. Parce que les effectifs à traiter qui restaient étaient bien quantifiés, étaient bien connus et localisés. Il fallait les moyens logistiques, les moyens financiers pour faire déplacer qui des ex-combattants qui se trouvaient dans la province orientale vers une autre province où était supposé être leur centre de brassage, ainsi de suite. Et à mi-chemin, lorsque l'intégration est bloquée, on est passé à ce qui concerne de manière spécifique à ce qui concerne les groupes armés de l'Est, au mixage. Et le mixage a été une très très mauvaise affaire. Et il y a eu des problèmes, des réactions. La communauté internationale n'a pas donné un avis favorable pour le mixage. A préféré plutôt qu'on poursuive l'intégration. Et dans l'entretemps, d'autres groupes armés naissent, des accords que le gouvernement a pris avec ces groupes armés, qui sont, du reste, donc pas applicables par les mêmes groupes armés, qui se rebellent au motif de créer des M23 et ainsi de suite. Et donc, l'intégration n'a pas été achevée complètement telle qu'on avait convenu au départ, parce qu'il y a eu un plan national d'intégration. Et donc, qui n'a pas été respecté en bout, et le gouvernement, avec les moyens, justement, et le succès de pouvoir poursuivre
cette opération. Et merci beaucoup. Oui.
Nous revenons avec des textes. Il faut commencer
sur le
sujet et aller au-delà.
Merci beaucoup, Mohamed. Elie est à Bounia et Théodore à Mboujimaï. Bonjour, Elie.
Bonjour, M. Gia.
Oui, comment réagissez-vous, Elie?
Vraiment, ce sujet m'intéresse au plus haut point. Vous savez, Gia, pour qu'il y ait une extension en sécurité, il faut réunir quatre éléments. Actuellement, je vois une forte armée dissuasive. Vous avez un service de renseignement efficace pour l'État. Vous ajoutez à cela la diplomatie agissante. À cela, il faut ajouter une forte économie. Vous savez, M. Gilles, aujourd'hui, Didier Reinders a bien voulu présenter cela sur table. Je crois que nous tous, avec les Congolais, nous songeons à cela. Nous voulons à ce que ce pays soit sécurisé. Et à cela, nous sommes délégués inscrits dans la logique des réformes de l'armée. J'entends par là qu'il faut renouveler les gens, parce que les hommes vieillissent, il faut recruter d'autres jeunes. Et maintenant, comment recruter les jeunes quand on sait que l'armée, là, la vie n'est pas facile, hein? Parce que je ne vois pas quelqu'un qui vient de terminer son université comme ça, qui sont acceptés d'adhérer dans l'armée. Je ne vois pas. Et à cela, il faut garantir la meilleure condition possible. C'est ce que j'avais à dire.
Voilà, Elie, merci. Théodore, vous êtes en Bouchebaï. Bonjour, Théodore.
Bonjour, monsieur.
Oui, comment réagissez-vous?
Je salue monsieur Didier Reinders. Je vois que la Belgique a bien pensé à faire assister la République démocratique du Congo dans cette réforme. Vous savez que la réforme, on a longtemps décrié pour cette réforme, et pour moi, avant de passer à ma proposition, vous savez, la force armée congolaise devrait nécessairement avoir une force aérienne dans tous les pays. Comme dit tant de M. Mobutu, vous savez, quand il y avait la guerre de 80 jours, on voyait les missiles, les avions missiles qui passaient partout. Et ça faisait même peur aux rebelles. Aujourd'hui, c'est ce qui ne se fait jamais. Et on devrait aussi avoir la force navale et les services d'appui. Parce que vous savez, dans nos fleuves, comme le fleuve Congo et les autres lacs qui sont à la frontière, Je pense qu'on devrait mettre la force navale avec la logistique importante. Et nécessairement, il faudrait aussi avoir une force terrestre capable d'affronter l'ennemi. Et si cette force devrait avoir comme mission de défendre l'intégrité du territoire, aujourd'hui, on ne devrait jamais avoir toutes ces forces, ces groupes armés qui se trouvent à l'est. Si cette réforme avait eu lieu avant la période électorale, on pouvait déjà envisager à voter tous les groupes armés dehors, y compris la FDLR et les LRA. Je m'en vais à la proposition.
Oui,
comme on passe faire cette réforme aujourd'hui, mais pour moi, je pense qu'il devrait cette force armée plutôt doivent participer au temps des faits et au temps du développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection des personnes de l'ERGA. Elles seront aussi républicaines, tout en étant au service de la nation tout entière. Et puis, pour ce les fonctions du commandement doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois de l'attitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée, et si il y a eu aussi une représentation équitable des provinces. C'est tout ça. Vous savez, quand on ne tient pas compte des représentations équitables des provinces, il y a toujours des problèmes. Vous savez, au centre, s'il y a les militaires qui sont au centre, ils sont capables d'être à la frontière et de travailler bien. Parce qu'aujourd'hui, si vous trouvez, par exemple, à Lumbashi, il y a les militaires qui parlent kibembe, et vous allez à Zambie, vous trouvez les mêmes militaires qui parlent kibembe. Et c'est difficile d'attaquer la même langue. C'est vraiment difficile. C'est pourquoi on doit passer aux représentations équitables des provinces. La construction des cantines, des casernes modernes, des formations, des génies civils pour le développement de notre force armée. Voilà que la Belgique a bien passé à certaines choses, mais le temps n'est pas vraiment favorable.
Voilà, merci Théodore. On va terminer cette série des auditeurs avec Ernest Matadi. Ernest, bonjour.
Bonjour, je suis dire.
Et comment réagissez-vous?
Bon, même si je pense qu'il y a bien des choses que les amis ont déjà signalées pour la réforme, mais ce qui est regrettable en premier lieu, c'est de constater que nous avons des experts militaires qui ont eu la chance d'étudier dans les académies militaires en France, en Belgique, en Israël, aux États-Unis et ailleurs, à l'époque de Mobutu. Mais aujourd'hui, on se rend compte que dans notre armée, mais ces experts-là n'arrivent pas à faire l'état du lieu de la situation. Il fallait attendre un étranger pour venir dire, non, il faut la réforme. Aussi, nous pensons, pour la génie, pour réformer l'armée, c'est que je n'ai pas lu le chef des parlementaires, mais je dis, il faut rajeunir fortement les corps de notre force, dépolitiser l'armée congolaise, la détribaliser ou la déréginaliser, pour qu'elle soit réellement républicaine. Aussi, la formation doit tenir compte de toutes les sections de l'armée nationale, c'est-à-dire armée, force terrestre, navale, aérienne, ainsi de suite. On doit avoir des éléments bien formés à travers les écoles militaires de l'époque, où nous avons la collaboration, la France, la Belgique, remettre en fonction les casernes et aussi les lieux de formation. Moi, j'ai étudié sur un bandeau.
Ernest.
Oui.
Oui, ben aujourd'hui, nous avons quand même les FO, l'école de cadets, l'école militaire de Kananga.
Oui, il y en a, mais j'ai dit, en bandeau, les années 85-86, si vous demandez à tout enfant de bandeau, qu'est-ce que vous avez dans la vie, donc, si je suis militaire, parce que vous voyez les comportements, l'abîmement des militaires de l'État, c'est bien, l'école de formation de toutes les. Donc, on ne pouvait pas passer aux soucis pour ne pas l'armée. Mais tous ces éléments sont partis à terre. Et aujourd'hui, on doit aussi penser, moi je pense qu'il faut éliminer tout favoritisme dans l'armée et faire du français la langue officielle de l'armée. Et non, une des quatre langues naturelles, parce que ces langues-là, on sent qu'on est penché par le fait du français de faire du gère le pays. Donc, je crois aussi, il y a quelqu'un qui a parlé de taux. De répartition des militaires. Moi, je dis, si par exemple notre armée a 5 000 personnes, on ne peut pas avoir 1923 éléments d'une même province. On peut étudier cet équilibre-là pour que l'armée soit réelle, république, pour faire face aux étrangers.
Voilà, merci Ernest. Donc, nous retenons une chose, que vous plaidez pour la dépolitisation de l'armée et aussi qu'il y ait effectivement l'amélioration des conditions de vie des FRDC, donc de nos forces armées. Merci Ernest d'avoir appelé de Matadi. Nous avons Fidèle qui est à Colésie et Fidèle qui va boucler cette série des auditeurs avant que nous passions au dernier quart d'heure de notre émission. Fidèle, vous êtes à Colésie. Bonjour.
Bonjour, Mathieu.
Oui, comment réagissez-vous, Fidèle?
Ok, je voudrais d'abord parler de notre armée. Hein. L'armée 100% congolais est une armée très forte. Nous l'avions su depuis des temps anciens. Maintenant, le mixage qui a été conseillé par la Belgique et d'autres pays de la communauté internationale, c'est ça qui amène l'échec dans l'armée congolaise actuelle que nous utilisons, qui nous défend aujourd'hui. Alors, est-ce que je pourrais peut-être poser comme solution à cela? Il faudra d'abord penser à utiliser une partie de l'armée qui soit filtrée d'abord, parce que notre armée est sérieusement infiltrée. Il faut d'abord trouver une partie de l'armée qui est filtrée, que l'on puisse utiliser présentement au front pour essayer de parvenir à mettre fin à une situation qui est immédiate à l'Est, avant de penser à un long processus que l'on déclare, la réforme qui est un long processus, alors que nous avons l'urgence à l'Est maintenant. Donc il faut trouver une solution immédiate en utilisant une partie de l'armée qui soit bien filtrée et qui puisse vraiment avoir des gens qui peuvent bien nous défendre à l'Est pour arrêter d'abord l'hémorragie avant de penser au long processus de réforme. Je pense que c'est dans ce sens-là que je voulais intervenir.
Voilà, merci Fidèle d'avoir appelé de Colésie et nous profitons d'ailleurs pour faire un coucou à tous ceux qui nous suivent à Colésie, au Katanga. À présent, nous allons vous proposer le bulletin d'information et on se retrouve juste après pour le dernier quart d'heure de parole aux auditeurs. Mohamed, vous voulez rester également en ligne, on va poursuivre après les flashs. Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs et si vous nous rejoignez, bienvenue. Nous ouvrons d'abord les correspondances que nous avons tirées de notre page Facebook. Stevie Massella qui nous écrit de la région de la capitale nationale du Canada, qui dit ceci, les forces armées sont les moyens militaires qu'un pays consacre à la mise en œuvre de sa politique de défense. Leur mission première est d'assurer la sécurité de l'État, la défense de ses intérêts et la protection de ses populations et territoires vis-à-vis d'une menace extérieure. Ce n'est plus un secret que notre armée a échoué à sa principale mission, celui d'assurer la sécurité des Congolais et Congolaises, d'où l'importance d'une réforme à ce jour. Donc, Sévi est favorable à la question de la réforme de nos forces armées. Didier Kabalika de Lubumbashi, ce que j'entends par réforme de l'armée, c'est d'abord identifier au sein des FRDC des éléments comme les ex-CNDP en les renvoyant dans les centres de formation à travers le pays. Richard Manda, la réforme de l'armée peut ou ne pas être une solution de la fin de la guerre à l'est de notre pays. Mais l'essentiel est de poursuivre avec les trois solutions du chef de l'État, la solution politique, militaire et diplomatique. James Rukera, El Chag, oui, la réforme de l'armée et du gouvernement peut mettre fin à la guerre de l'Est parce que si notre armée était bien formée, bien payée et moralisée, et si elle n'était pas corrompue par nos propres autorités, l'armée pourrait bien jouer son rôle au sein du territoire national. Mohamed Boulet, vous êtes encore avec nous en ligne et vous êtes notre invité aujourd'hui. Comment réagissez-vous par rapport aux réactions des uns et des autres? Mais d'abord, si on peut revenir sur la question de Franck qui nous avait appelé de Vienne par rapport à la position de la Belgique qui accepte d'appuyer cette action de réforme, ce processus d'ailleurs, mais Franck est tout de même pessimiste, hein, il ne croit pas à la sécurité de la Belgique. Comment réagissez-vous, Mohamed? Voilà, le temps pour nous de reprendre encore notre invité en ligne. Nous avons Maurice qui est à Kinshasa. Maurice, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Oui, comment réagissez-vous, Maurice?
Oui, moi je voudrais d'abord appuyer ce que France avait donné comme avis. Je pense que depuis le début de la rébellion, de la guerre dans notre pays, il n'y a pas eu vraiment de réaction formelle de la Belgique condamnant ou comme faisant comme des autres pays qui ont manifesté à travers les différentes ruptures de coopération d'aide au Rwanda. Alors, je voudrais dire, depuis un certain temps, depuis même les élections de 2011, il y a un silence qui règne au niveau des pays occidentaux, notamment la Belgique, les États-Unis, la France, qui ont estimé que les élections étaient mal organisées et que les résultats, d'après eux, sont même la cause de cette guerre qu'on vit au niveau de notre pays. Alors, quand aujourd'hui un ministre belge qui vient, parce que c'est le seul haut personnage de la vie politique occidentale qui est arrivé depuis les élections de 2011, qui vient toujours dans ce pays, et toujours à l'encontre de la volonté de son parlement, du parlement belge, à chaque fois qui a toujours critiqué l'arrivée de leur ministre au niveau de dans notre pays. Ce que nous souhaitons, on ne peut pas parler de la réforme à l'heure ici où on a un problème d'urgence de guerre au niveau de notre pays. La réforme, c'est un long processus comme le disent d'autres éditeurs. C'est un long processus, ça va prendre combien de temps. Ce qui existe, ce qu'on déplore dans notre pays, c'est d'abord les désamours qui existent entre les dirigeants et l'armée. Hein, ceux qui restent dans l'armée estiment que le pays, plutôt les dirigeants, ont toujours eu besoin d'eux quand ils se trouvent devant une difficulté comme celle qui est liée à la guerre de l'Est. Donc, en temps normal, où il n'y a pas de problème dans le pays,
on
pense que l'armée peut fonctionner comme
dans des conditions
comme d'habitude. Or, c'est vraiment une ingratitude pour on doit toujours se soucier des gens quand vous êtes vraiment dans les besoins. Voilà. Et même le budget qui a été voté au niveau du Parlement. Vous avez compris. Et qu'est-ce qu'on a réservé à l'armée? Qu'est-ce qu'on a réservé à la défense du pays? Donc vraiment, c'était ma préoccupation de voulez au moins.
Voilà, si nous comprenons un peu votre intervention, vous demanderez à ce que le prochain budget puisse tenir compte de ce processus de réforme de l'armée, tout en allouant une bonne part pour la défense et notre armée. Merci beaucoup. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour Sylvain.
Bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Voilà, Sylvain, comment réagissez-vous?
Bien. Lorsque j'ai suivi M. Pierre, très vite, je me suis rendu compte que c'était un discours diplomatique. Et j'étais estomaqué. Puisque lorsque j'analyse la situation des FRVC, de la police, je crois que c'était ceci. Mais aussi très vite. À la suite, lorsque vous avez organisé cette émission, je me suis rendu compte que c'était une occasion pour moi de pouvoir rétorquer à de telles déclarations et proposer certaines choses, mais aussi interpeller la conscience des dirigeants congolais.
Oui, rapidement, vous n'avez qu'une minute. Hein.
D'accord.
Allez-y.
Je voudrais dire ceci. La situation sociale des FARDC, de la PNC, est contente. Personne ne l'ignore. Et comme je n'ai qu'une seule minute, je ne saurais pas dire tout ce que j'ai dans ma tête.
Voilà, allez.
Je suis doctorant en diplomatie américaine, mais je me pose une seule question. Cette question va demeurer à l'écart de tous les Congolais. Est-ce que M. Joseph Kabila, président de la République, premier citoyen, est calme dans sa conscience lorsqu'on analyse la situation des FARDC?
Voilà, je crois que Sylvain, votre intervention donc tout. Nous vous rappelons d'ailleurs qu'il y a quand même aujourd'hui le pays dans le processus de la réforme des forces armées congolaises, et là déjà le pays vient de se doter des instruments juridiques, notamment
la loi portant organisation des phares d'essai et la loi portant statut des militaires, donc qui attendent d'être promulguées par le chef de l'État. Mais je crois que dans ces lois, il y a quand même beaucoup d'améliorations, beaucoup de propositions quant à l'amélioration des conditions de vie des phares d'essai. Je crois que comme l'a dit notre invité, vous serez obligé donc un jour de voir ça dans les journaux officiels, hein, quand ça sera promulgué, pour vous rendre compte de tout ce qui sera dit dans cette loi. Nous terminons cette série des auditeurs avec Marcel qui est à Kinshasa. Bonjour Marcel.
Bonjour JR, bonjour.
Rapidement, vous avez 30 secondes. Qu'est-ce que vous proposez pour avoir une armée républicaine?
Ok, merci JR. Je voulais d'abord préciser très bien que nous avons déjà, au niveau du canal juridique, des instruments consacrés quant à. Mais du moins, nous devons nous poser la question en ce qui concerne l'opérationnalisation de ces instruments-là. C'est là où se pose le problème. Et je me demande qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui aux dirigeants congolais de bien vouloir informer ou demander aux Congolais et lui accorder une année ou de décréter une année consacrée à la réforme, consacrer les moyens nécessaires, conséquents et adéquats à la réforme de l'armée pour faire face aux perpétuelles agressions que nous connaissons et que nous avons connues et que nous connaîtrons dans les jours à venir, puisque nous ne pouvons pas prétendre qu'après avoir éradiqué ces forces négatives à l'Est, nous n'en aurons plus d'autres. Certainement, nous en aurons et nous serons toujours agressés, mais du moins nous devons partir de la réforme puisque elle est nécessaire pour la suite.
Voilà, donc pour vous, c'est une nécessité. Merci Marcel. Mohamed Boulet, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Donc, nous retenons que bon nombre d'auditeurs sont favorables à cette réforme telle que c'était par la Belgique.
Merci. Cette réforme est déjà scellée par le chemin juridique, c'est-à-dire cette loi qui a été promulguée. Elle parle pour les forces armées, pour la police, et bientôt ce sera le tour du statut des forces armées. Ce que nous attendons, ce sont les moyens à mettre à disposition. Ces moyens sont annuels ou pluriannuels. Et donc, il est bien attendu qu'à la rentrée de cette session, qui est extrêmement budgétaire le 15 septembre, nous allons prendre en compte de la réforme des forces armées. Et nous avions déjà demandé au gouvernement que chaque fois-ci, que le ministre, que le gouvernement, en même temps qu'il présentera le budget, donc la loi, le projet de loi budgétaire pour 2013, en même temps que cela soit accompagné des autres lois essentielles, c'est-à-dire la loi de programmation pour la réforme des forces armées d'une part, pour la loi de programmation, pour la réforme de la police d'autre part, et bien entendu plus tard, ce sera pour les services de sécurité. Et sans ces moyens extra-budgétaires pluriannuels, on ne pourrait pas réaliser cette réforme rien qu'en puisant dans l'assiette du budget annuel 2013.
Voilà, Mohamed Boulet, ministre honoraire à la Défense. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Hein.
Merci beaucoup.
Allô? Il ne répond pas?
Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Jean-Claude Siala qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Comtesse Matouba l'ont réalisé. Et Jérôme Nguembo vous l'a présenté sous la supervision de Ben Kabamba. Écoutez cette émission sur www.radiocapi.net. Dans le cadre des efforts visant à éliminer les intermédiaires entre les fonctionnaires et son salaire, le gouvernement congolais a décidé la bancarisation de la paye des enseignants et agents de l'État. Selon le premier ministre du budget, cette opération, démarrée au mois de juin dernier, dégage déjà un résultat de 1,3 milliard francs congolais. Pensez-vous que ce mécanisme va maîtriser la masse salariale ainsi que les effectifs et nettoyer ainsi les fichiers de la fonction publique? C'est la question du débat de Parole aux auditeurs de demain. Inscrivez-vous déjà pour y participer à l'adresse pa@radiocapi.net et déposez également vos commentaires sur notre page Facebook. À très bientôt.